de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Chers amis, bonsoir. Voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Le Japon assouplira les restrictions à l'entrée des étrangers au milieu de la pandémie. L'Amérique latine fait face à 250 000 décès dus à COVID-19. La Corée du Sud est prête à sécuriser les vaccins COVID-19 pour sa population. La transmission de corona en France continue d'augmenter. Inaka, le nombre de mouvements d'aéronefs et de passagers commence à augmenter. Le ministère de la Recherche et de la Technologie se concentre sur le développement de 5 productions pour Corona. Voici le bulletin complet. Le Japon prévoit d'assouplir les restrictions à l'entrée des ressortissants étrangers avec les visas de résidents à partir du mois prochain au milieu de la pandémie COVID-19. Cela vient après les protestations contre les difficultés économiques causées par les mesures de restrictions à l'entrée. Les titulaires de visa, y compris les résidents permanents et les étudiants en échange, sont autorisés à rentrer au Japon à condition de subir des tests de coronavirus et une mise en quarantaine pendant 14 jours. Cependant, le vendredi 21 août, la NHK a rapporté que la même politique s'applique maintenant aux ressortissants japonais qui rentrent dans le pays. Le nombre de décès liés au coronavirus en Amérique latine a dépassé 250 000. La pandémie continue de se propager dans les régions les plus touchées du monde. Le nombre de morts dans la région a augmenté après que le ministre brésilien de la Santé ait signalé 1204 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures. Ces dernières semaines, la région a signalé 3000 décès par jour. Vendredi 21 août, l'agence de presse Reuters a compté que le nombre de cas d'infection en Amérique du Sud continuait d'augmenter, en particulier au Pérou, en Colombie et en Argentine. À présent, le Brésil occupe la deuxième place avec le plus grand nombre de cas dans le monde après les États-Unis. On estime que le virus corona a tué plus de 112 000 personnes dans le plus grand pays du continent latino-américain. Le vendredi 21 août, la Corée du Sud a déclaré que le gouvernement agissait rapidement pour sécuriser les approvisionnements en vaccin COVID-19 grâce à la coopération internationale et nationale. Cette décision intervient alors que le pays du monde entier se bat pour trouver un médicament capable de lutter contre la pandémie de COVID-19 qui a tué plus de 796 000 personnes dans le monde. Comme cité par Yonhap, des responsables ont déclaré que le gouvernement participerait à un projet international conjoint de développement de vaccins et établirait des relations avec les principales sociétés pharmaceutiques mondiales pour obtenir des quantités adéquates du vaccin COVID-19. Le ministère français de la Santé a noté qu'il y avait 3 800 nouveaux cas corona supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Le communiqué du ministère français de la Santé a été cité par l'AFP jeudi 20 août, affirmant que tous les indicateurs continuent d'augmenter et que la transmission du virus augmente. Depuis mai, l'augmentation moyenne des cas corona par jour en France est d'environ 3 000 cas. Dans la capitale, Paris, il y a 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants chaque jour. L'Association nationale des transporteurs aériens indonésiens, INACA, a déclaré que le nombre de mouvements d'aéronefs et de passagers dans un certain nombre d'aéroports avait commencé à augmenter après que l'industrie aéronautique eux étaient considérablement affectés par la pandémie de COVID-19. Le président de l'INACA, Denon Prawira Atmaja, dans sa déclaration écrite du vendredi 21 août, a déclaré que le programme de campagne pour la sécurité des voyages mis en œuvre depuis début août 2020 est l'une des améliorations apportées aux performances de l'industrie aéronautique. Il a déclaré qu'à l'aéroport Soekarno-Hatta de Tangerang, Banten, la quantité de trafic ou de mouvement d'aéronefs avait déjà dépassé l'objectif psychologique de l'INACA, qui était de 500 mouvements par jour. Cela signifie que les gens sont de nouveau confiants quant au vol, car ils ont reçu des informations correctes concernant les normes de santé et de sécurité de l'aviation. Le ministère de la Recherche et de la Technologie, l'Agence nationale de recherche et d'innovation, se concentre actuellement sur l'augmentation de la production et le développement d'innovations liées au COVID-19, virus corona. Le ministre de la Recherche et de la Technologie, chef de l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation, Bambang PS Brojonegoro, lors de la réunion de coordination au ministère de l'Économie à Nusa Dua, Bali, vendredi 21 août, a déclaré que la recherche liée à COVID-19 a été menée sous la coordination du ministère de la Recherche et de la Technologie, Agence nationale de la recherche et de l'innovation. 60 innovations sont en cours. Cependant, sur les 60 innovations qui sont actuellement ciblées et qui seront prêtes à être produites, il y a 5 innovations. Les 5 sont des vaccins, des tests rapides, des kits de tests PCR, des suppléments et des laboratoires mobiles. Il a expliqué que des produits de tests rapides sont déjà en cours de fabrication et que le mois prochain, 1 million d'unités de kits de tests rapides seront produites. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta.
Commémoration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République indonésienne en 2020, sur le thème « L'Indonésie va de l'avant ». La longévité pour la République indonésienne.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Yogyakarta. L'Association des hôtels et restaurants indonésiens pour la région spéciale Yogyakarta a souligné son engagement à continuer et appliquer strictement le protocole de prévention de COVID-19 sur la santé. L'un d'entre eux ne servira pas les clients qui ne respectent pas les protocoles sanitaires. En plus de se laver les mains, de porter un masque et de garder ses distances, le protocole de santé qui doit être fait est de demander aux invités de la zone rouge d'apporter les résultats d'un test rapide ou d'un test sur écouvillon qui montre des résultats négatifs. Le président de l'Association indonésienne des hôtels et des restaurants de Yogyakarta, Dedi Pranawa Eriana, a déclaré mercredi à Yogyakarta que son parti travaillait également avec le Bureau de l'information et de la communication de la ville de Yogyakarta concernant l'ajout de fonctions de code QR pour la collecte de données sur les clients afin de faciliter le processus de traçage si un cluster de transmission du virus corona apparaît. Actuellement, pas tous les hôtels ont ce code QR. Ensuite, l'info de Pasuruan, Javaes. La collection d'orang-outan, soit Pongo Pygmaeus, au parc Safari Prigen, Pasuruan, Javaes, a augmenté avec la naissance d'un bébé orang-outan. Le vétérinaire du parc Safari Prigen, Nanang Tejo Laksono à Pasuruan, a déclaré récemment que l'orang-outan nouveau-né s'appelait Nanda. Selon lui, la naissance de Nanda est également une nouvelle très encourageante pour la commémoration de la Journée mondiale de l'orang-outan qui tombe le 19 août 2020. Nanang a ajouté, avec la présence de la femelle Nanda, le nombre d'orang-outan dans le parc Safari Prigen est maintenant 22. La dernière info est venue de Magelang, Jawa Tengah. Le gouvernement de la ville Magelang a décidé de fermer le Mont Tidar pour des activités de pèlerinage dans la région dans la nuit du 1er Muharram 1442 Hijriah, coïncidant avec la nuit du mercredi 19 août, afin d'empêcher la transmission du COVID-19. Le chef du bureau environnemental de la ville Magelang, Rostrianto, a déclaré mercredi que la décision du gouvernement de la ville était soutenue principalement par le groupe de travail pour l'accélération de la gestion du COVID-19, la police, les dirigeants communautaires et le gardien du Mont Tidar. Malgré cela, Rostrianto garantit que la communauté environnante peut toujours mener ses activités commerciales car le jardin botanique du Mont Tidar reste ouvert à 7h à 15h30, temps d'Indonésie occidentale. Il a rappelé aux visiteurs d'être disciplinés et d'obéir aux protocoles sanitaires qui ont été établis. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Bonsoir, chers amis. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 22 août. Tout d'abord, le 22 août 1945, l'Agence de sécurité du peuple, BKR, a été créée. L'Agence de sécurité du peuple, ou BKR, est la première force armée formée après l'indépendance de l'Indonésie. La formation du BKR a été réalisée par le biais d'une session du Comité préparatoire pour l'indépendance indonésienne, PPKI, le 22 août 1945 et annoncé par le président Sukarno le 23 août 1945. Les membres du BKR à l'époque étaient des jeunes indonésiens qui avaient auparavant reçu d'une éducation militaire en tant que soldats Heiho, défenseurs de la patrie PETA, KNIL et d'autres. Aruji Kartavinata a été nommé commandant du BKR. Par décret présidentiel daté du 5 octobre 1945, le BKR est devenu l'armée de sécurité du peuple, TKR. Le 22 août 1945, PPKI a tenu la dernière session et a marqué en même temps la fin des fonctions de PPKI. Le Comité préparatoire pour l'indépendance de l'Indonésie, ou PPKI, est un comité chargé de préparer l'indépendance de l'Indonésie. Avant la formation de ce comité, l'Agence d'enquête pour la préparation de l'indépendance indonésienne, BPUPKI, a été créée. Cependant, parce qu'il était jugé trop rapide de vouloir procéder à la proclamation d'indépendance, le Japon l'a dissous et a formé le Comité préparatoire pour l'indépendance indonésienne, PPKI, le 7 août 1945, avec l'ingénieur Soekarno comme président. Le PPKI, qui compte 21 membres, est un organe formé avant l'Assemblée consultative du peuple. Après la proclamation d'indépendance, le PPKI a tenu plusieurs sessions. Le 22 août 1945, le PPKI réussit à former le Comité national Sangha indonésien, le Parti national indonésien et à former l'Agence de sécurité du peuple, PKR. Le 22 août 1945, les fonctions de PPKI ont été accomplis, mais il n'a été dissous que le 29 août 1945, en même temps que l'inauguration des membres du Comité national Sangha indonésien. Le 22 août 2016, le vol 612 de Pulkovo Airlines a eu un accident. Le vol 612 de Pulkovo Airlines est un vol qui relie Anapa à Saint-Pétersbourg, Russie. L'accident s'est produit dans l'est de l'Ukraine, près de la frontière russe. Cet accident a tué les 160 passagers et 10 membres d'équipage. L'accident s'est produit à 15h37 heure de Moscou, en direction de 45 km de la ville Donetsk. L'avion était en route jusqu'à ce qu'il s'écrase. Outre les passagers de Russie et d'Ukraine, il y avait aussi des passagers des Pays-Bas, d'Allemagne, de France et de Finlande. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Jiwaku terpaku padamu saat jumpa engkau senja itu. Thank you.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici mon Indonésie. Et en beau titre, la Banque d'Indonésie présente le Festival économique de la Sharia dans l'Est de l'Indonésie. Le Festival économique régional de la Sharia, FESHAR, de la région de l'Indonésie orientale à Mataram, Nusa Tenggara Ouest, s'est ouvert virtuellement le mercredi 19 août 2020. Le festival organisé par la Banque d'Indonésie avait pour thème encourager l'économie de la Sharia en tant que force motrice de l'économie régionale après la mise en œuvre de la nouvelle normale et a eu lieu jusqu'au 28 août 2020 virtuellement. Le sous-gouverneur de la Banque d'Indonésie, Rosmaya Hadi, dans son discours d'ouverture a demandé aux entreprises de la Sharia et aux micro, petites et moyennes entreprises MPME de s'adapter à la nouvelle ère de normalité. Il a expliqué que les acteurs commerciaux de la Sharia et les MPME doivent tenir compte de trois éléments pour adapter à cette nouvelle ère de normalité. Tout d'abord, ajuster la gestion d'une entreprise selon les protocoles de santé. Ensuite, soyez vigilants pour saisir des opportunités à l'ère de numérique en comprenant la transformation des modes de vie et des mentalités des consommateurs. Troisièmement, accélérer la capacité commerciale en faisant diverses innovations. Le Festival économique régional de la Sharia FESHAR de l'Indonésie orientale 2020 se compose de deux activités principales, à savoir la foire de la Sharia, à laquelle participent 55 stands virtuels pour les MPME dans la région orientale de l'Indonésie, et le forum sur la Sharia qui se compose de 20 conférences et séminaires virtuels. Ce FESHAR présente également des personnalités et des militants de l'économie islamique au niveau local, régional et national. La Banque d'Indonésie espère que FESHAR Régional 2020 pourra rassembler des fournisseurs et des producteurs et des distributeurs, des producteurs et des consommateurs, ainsi que des inventeurs de l'industrie halal nationale. Le FESHAR Régional 2020 est une forme de synergie et de coordination entre la Banque d'Indonésie et d'autres autorités. Parmi eux figure l'Agence de garantie des produits halal pour le ministère de la Religion, le Comité national pour l'économie et les finances de la Sharia, l'Agence de contrôle des aliments et des drogues, le ministère des Finances, le Conseil indonésien du Wakaf et de diverses associations dans le développement de l'économie et des finances de la Sharia. Le chef du bureau de représentation de la Banque d'Indonésie pour la province Nusa Tenggara Ouest, Ahris Sarmani, a révélé que lors du Festival économique de la Sharia de cette année, son parti présentait également des MPME supérieurs de la région de l'Est de l'Indonésie pour exposer leurs produits halal. Ce festival régional fait partie d'une série du Festival économique de la Sharia en Indonésie, soit ISEF Virtuel 2020, qui a été ouvert par le vice-président Ma'ruf Amin en tant que vice-président et président quotidien du Comité national sur l'économie et la finance de la Sharia au début du mois d'août. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
pernah begini. Jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tapi ku takut ketemu kamu, sang pujaan hatiku. Oh Tuhan, kirim cintaku untuknya. Oh Tuhan, kirim pesanku untuknya, agar dia tahu betapa ku jatuh cinta. Ku menjadi gemetaran saat ku memandangmu. Oh, tapi ku takut ketemu kamu. Pujaan hatiku. Oh Tuhan, kirim cintaku.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz, 4750 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, bonsoir. Voici le magazine culturel introduisant le poisson asar culinaire traditionnel d'Ambon, Moluk. C'est temps complet lorsque vous venez à Ambon sans goûter le poisson asar galala, le plat culinaire le plus emblématique des villes d'Ambon et de Moluk. Le poisson est appelé asar galala car il est connu depuis l'Antiquité que le village galala est centre de pêche. Les ingrédients de base du poisson asar sont généralement le poisson cakalang, le poisson à queue jaune ou le thon du poisson avec une texture de viande suffisamment dense pour ne pas être cassante lorsqu'elle est fumée. Fondamentalement, le poisson hasard est du poisson fumé. Ce qui distingue et unique, c'est comment le fumer. Si le poisson fumé est généralement placé horizontalement sur la fumée, hasard est placé en diagonale du côté des braises qui produisent de la fumée. Ceci est fait pour que le poisson soit complètement sec et cuit sur les côtés de la viande. Cela signifie qu'il n'y a plus de teneur anneaux stockés dans la viande, car elle a chuté lorsque la position du poisson est inclinée. Le processus de cuisson est assez simple. Après avoir nettoyé les intestins, le poisson est poignard avec du bambou et prêt à être fumé sur le poêle. Fumer longtemps pendant environ 4 à 5 heures est effectué dans une pièce fermée de sorte que la fumée s'infiltre dans la viande jusqu'à ce qu'elle soit complètement cuite. Le poisson hasard a un goût extraordinaire. La chair de poisson salé est savoureuse et l'arôme est si appétissant. Le poisson hasard est très approprié pour être dégusté avec du riz chaud et du chili cholo cholo, un piment typique de Moluques à base d'oignon, de piment, de basilic et de citron. Chers amis, c'était le magazine culturel.
Kau yang sering dari hidupku, cintaku.
auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en petit titre. Les étudiants de l'Université d'Indonésie, UI, gagnent des navires à économie d'énergie de classe mondiale. 12 étudiants de la faculté d'ingénierie de l'Université d'Indonésie, FTUI, qui ont rejoint l'équipe UI Hydros, ont remporté le premier prix du prix Coup de cœur en tant qu'équipe la plus favorite du concours Solar and Energy Boat Challenge 2020 Online Edition. L'équipe Hydros UI transporte le navire catamaran avec l'innovation utilisant des sources d'énergie respectueuses de l'environnement. Ce concours de navires à économie d'énergie de classe mondiale se tient en ligne pendant 9 jours, du 30 juin au 8 juillet 2020. Le concours, qui se tient généralement à Monaco chaque année, est maintenant devenu une édition en ligne du concours en raison de la pandémie COVID-19. Si au cours de l'année précédente, les participants ont concouru dans trois classes, trois catégories de courses et quatre catégories hors course, les participants s'affrontent maintenant seulement dans la catégorie hors ligne. Ce prix a été décerné sur la base de l'évaluation par les juges de la préparation, de l'innovation et de l'esprit d'équipe au cours de la période d'un an en préparation de la participation à l'édition en ligne de la compétition organisée par le Yacht Club de Monaco. L'équipe Hydros UI a conçu un bateau catamaran, soit un navire à deux coques d'une longueur totale de 5 mètres. La conception du navire est également équipée d'un cockpit, d'un système d'hélice de navire, soit système de propulsion électrique avec l'aide de panneaux solaires de 500 WP comme puissance supplémentaire. Avec un poids de 230 kg, ce navire utilise également une batterie de 5 kW comme source d'énergie respectueuse de l'environnement et un panneau solaire de 2,5 m² qui peut stocker plus d'énergie et aller deux fois plus vite. D'autres innovations développées cette année sont des mises à jour sur la conception de la coque du navire, l'utilisation de matériaux entièrement en fibre de carbone dans le cockpit du navire, des modifications de conception, des matériaux et des mécanismes de gouvernail et d'hélices pour améliorer l'efficacité des systèmes de propulsion des navires, des changements dans le matériau de montage du moteur, l'utilisation de systèmes LORA, soit long range, c'est-à-dire l'utilisation d'une technologie sans fil à faible consommation et à faible coût qui permet le transfert d'informations dans un rayon de dizaines de kilomètres et l'utilisation d'un système de surveillance de l'alimentation pour la prise de décision en temps réel pendant une course. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui avec moi Tiwi dans le magazine musical. Cette édition, je vais vous présenter une chanson de Kroncong intitulée Aliati. Cette chanson d'Ismail Marzuki raconte l'admiration d'un homme pour une femme jusqu'à ce qu'il rêve d'elle. L'homme a estimé qu'il était impossible d'avoir sa femme idole. Le rencontrer dans un rêve l'avait rendu heureux. L'histoire racontée dans les paroles de cette chanson s'est probablement souvent produite dans la vraie vie. Même s'il s'agit d'une vieille chanson créée à l'époque de l'indépendance indonésienne, cette chanson semble intemporelle. La chanson intitulée Aliati a été chantée par plusieurs chanteurs indonésiens talentueux comme M. Rivani, l'un des talentueux chanteurs de Kroncong d'Indonésie. Bon, chers auditeurs, voici M. Rivani dont le titre est Aliati. Bonne écoute!
Indonesia.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.